se reconnaître chrétienne, chrétien. Appartenir à un groupe est une des dimensions importantes du développement humain. Nous sommes des mammifères, des grégaires. Nous aimons vivre en groupe, que ce soit la famille, les amis, les membres d'un club de golf, de tennis, mais aussi la paroisse. Même si cette dernière a perdu un certain attrait dans une société qui s'est fortement sécularisée, prenant distance d'avec le religieux, et très individualisée, cherchant plus une réalisation de soi que celle du groupe, de la communauté. Les premiers chrétiens se sont rassemblés autour de Jésus ressuscité, car avec la croix, ils se sont plutôt dispersés, comme si la mort rappelle nos propres fragilités et est incapable d'unir, de lier. Ces premiers croyants ont créé des premières communautés de partage et de foi. Ce ne sont pas les statistiques qui les préoccupaient, mais le partage d'une espérance. Ils ont suivi celui qui leur est devenu invisible mais présent, Jésus, revenu à la vie.
Cependant, ceux qu'avait dispersé la tourmente survenue à propos d'Étienne étaient passés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à nul autre qu'aux Juifs. Certains d'entre eux, pourtant, originaires de Chypre et de Cyrène, une fois arrivés à Antioche, adressaient aussi aux Grecs la bonne nouvelle de Jésus Seigneur. Le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur, en devenant croyants. La nouvelle de cet événement parvint aux oreilles de l'Église, qui était à Jérusalem, et l'on délégua Barnabas à Antioche. Quand il vit sur place la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie et il les pressait tous de rester du fond du cœur attachés au Seigneur. C'était en effet un homme droit, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable se joignit aussi au Seigneur. Barnabas partit alors chercher Saul à Tarse. Il l'y trouva et l'amena à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église et à instruire une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples.
Malgré ces persécutions, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Sans cela, le petit groupe d'adeptes de Jésus de Nazareth aurait disparu des radars de l'histoire, à n'en pas douter. On le sait, le christianisme naissant a dû avoir un nombre important de « suiveurs » entre guillemets, du Jésus ressuscité. Cet engouement a très vite été accompagné de grandes difficultés comme des arrestations, lesquelles ont obligé les croyants à porter le témoignage de leur foi bien plus loin géographiquement qu'ils ne le pensaient. Ici, Luc nous raconte comment la foi en Christ va sortir peu à peu du monde juif d'alors pour se répandre dans le monde païen. À cette époque, les croyants étaient plutôt polythéistes et on pouvait vénérer ces divinités au temple ou chez soi. Le marché du religieux était varié, mais pas si ouvert qu'on peut le penser, car par exemple, croire en Jésus n'est pas hyper compatible avec la quasi-divination de l'empereur romain. Ainsi, le culte impérial instauré quelques décennies avant l'arrivée de la foi en Jésus allait poser aux chrétiens un problème de loyauté envers l'empereur, car Jésus est pour eux le nouveau roi, le roi céleste. Ils n'en veulent pas d'autre. César a beau revendiquer une ascendance divine, pour les chrétiens, ce n'est qu'un mortel. Donc, ça coince, et les premières tensions au cours du 1er siècle feront que, par la suite, place à des persécutions. Bref, dans ce monde gréco-romain, comment les chrétiens vont-ils petit à petit y prendre place? Ce qui nous intéresse aussi ici, c'est la naissance du nom de chrétien que Luc situe à Antioche. Ce nom chrétien fait suite à plusieurs appellations dans les écrits du Nouveau Testament. Les premiers, on les appelait les croyants, les disciples, les frères, les saints. Et le christianisme est d'abord nommé chemin, voie, voie du salut, voie de Dieu, voie du Seigneur. Issus du judaïsme, les disciples de Jésus vont recevoir ce titre de chrétien à Antioche vers les années 40 de notre ère. c'est que ce surnom, ce sobriquet, ce quolibet censé mettre en dérision ces premiers croyants qui dérangent, deviendra en fait une véritable identité. En rapportant cela, Luc montre également que les croyants nommés chrétiens sont désormais affranchis du titre de croyants juifs. Non pas qu'il faille renier ce lien historique et spirituel, mais que le fondement de la foi se situe dorénavant dans la personne de Jésus le Christ. En employant le terme de Christ et non pas de Messie, qui est le terme hébreu, les faiseurs de sobriquets permettent indirectement de reconnaître Jésus dans le monde hellénistique, monde de la pensée grecque, le monde gréco-romain. Ce quolibet crée une ouverture insoupçonnée, ou du moins la parole n'atteint plus seulement les Juifs, mais arrive aussi dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Bien, cela dit, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Avant tout, il s'agit de savoir si nous accordons un tant soit peu d'importance au fait d'être appelés chrétiens. Ce n'est pas anodin aujourd'hui dans un monde où le religieux est devenu assez relatif, plus souple aussi, mais où il n'est plus si aisé que cela de trouver des repères. Si on se qualifie de chrétien, cela veut dire que l'on est pieds et poings liés à une pensée unique? Bof, moi je n'y crois pas un instant. Je ne crois pas à cela, sauf si on fréquente une communauté particulièrement fermée dans sa pensée, ce qui arrive. Quand je pense à nos amis et amies catholiques qui dépendent du magistère de Rome comme guide spirituel, on sent bien que les catholiques savent interpréter les positions du pape selon qu'ils y sont très attachés ou plus distants. Mais pour revenir à nos moutons, il m'apparaît que s'identifier à la foi en Christ, donc d'être chrétien, nous permet d'ancrer une foi personnelle en Jésus et de la nourrir, et ça c'est important, de la nourrir de ces enseignements que l'on trouve dans les évangiles et autres écrits du Nouveau Testament. La question est de savoir ce que nous mettons derrière un terme précis et ce qui le fait vivre. Ce terme, c'est chrétien. Se dire chrétien, aujourd'hui, est un programme de vie dont nous n'avons que la table des matières, principalement la Bible, le témoignage de celles et ceux qui en vivent et l'envie de le découvrir par nous-mêmes. Pour autant, il est vrai de désirer vivre et partager ce que nous recevons avec les autres. Le Christ ressuscité se rend invisible à nos yeux pour nous laisser inventer un monde où sa vie et son enseignement prennent forme humaine à travers celles et ceux qui se laissent appeler petit Christ à sa suite.